Chapitre 6. Il n'y avait point d'exagération chez Madame Courteheuse quand elle disait que c'était pour sa dot et l'héritage à venir de son oncle qu'elle avait été épousée, pour cela, rien que pour cela, sans aucune autre considération. Décidé à vendre son étude, le père Rotin avait commencé par chercher un successeur qui ne s'écarta pas trop de sa manière de comprendre et de pratiquer le notariat. Ses clients étaient sa famille. Puisque l'âge le forçait à les quitter, ils voulaient au moins remettre leurs intérêts entre des mains sûres, et après leur avoir dit pendant si longtemps « Je vais vous confier à Alexis », pouvoir leur dire avec la même sécurité « Je vous confie à mon successeur ». Quelle tranquillité pour lui ! À tous ses confrères, il adressait la même demande. « Trouvez donc moi un honnête garçon qui me remplace. Je ne serai pas exigeant avec lui. Qu'il m'offre des garanties morales, c'est tout ce que je veux. S'il n'a rien, je le marierai. Mais après plusieurs années, aucun de ceux qu'on lui proposait ne réunissant les garanties exigées, il avait dû diminuer de plusieurs crans ses prétentions en se disant que le sage est celui qui vit d'accord avec son temps. Justement, à cette époque, il s'était trouvé en relation dans un inventaire avec le maître clerc d'une des bonnes études de Rouen, appelée Courteheuse, qui lui avait plu par la facilité et l'élégance de sa rédaction, car s'il ne rédigeait pas lui-même, c'était simplement par paresse d'esprit et de main. Depuis plusieurs années, il connaissait ce maître clerc pour un garçon intelligent, actif, dur au travail, mais dans cette circonstance, il avait été frappé de sa capacité notariale. À la vérité, l'intitulé dicté par lui était bien abondant et tirait visiblement au rôle, mais avec cela si clair, malgré les difficultés que présentait une parenté embrouillée, si facile, si élégant, qu'on ne pouvait pas ne pas l'admirer. Après le déjeuner et pendant les quelques instants de promenade précédant la reprise de la vacation, il lui avait fait des compliments en même temps qu'il lui exprimait sa surprise et ses regrets qu'il ne fût pas encore notaire. « Pas le sou, mon cher maître, fils de paysan pauvre !» Il faudrait une occasion extraordinaire qui ne s'est pas encore présentée. Et si elle se présentait ? Dame ! Que diriez-vous, Doisselle ? Ce qu'il dirait, Doisselle, il n'avait pas tout de suite répondu pour ne pas se livrer, car Doisselle, précisément par son voisinage de Rouen, où il était connu et apprécié des gens d'affaires, où il avait des relations, était ce qu'il pouvait souhaiter de mieux dans tout l'arrondissement. Que ne ferait pas rendre à Doisselle un notaire intelligent qui serait en situation d'exploiter en même temps que son canton, Rouen et Elbeuf ? En quelques années, les produits de l'étude seraient triplés, quadruplés. « Et comment payer Doisselle ? » répondit-il. « Je ne vendrai pas cher. » « Rien n'est plus relatif. Ce qui n'est pas cher pour celui-ci l'est pour celui-là. » Et si je vous trouvais une femme qui vous apporta de quoi payer votre étude et même mieux que cela, voudrait-elle de moi? Pourquoi ne voudrait-elle pas de vous? Vous avez quelqu'un en vue? Croyez-vous que je sois homme à parler à la légère? En Normandie, il n'y a pas que les paysans qui répondent en interrogeant, et il est certain que, dans une imprimerie où l'on composerait des dialogues normands, il faudrait agrandir la case des points d'interrogation. Bien que Courteheuse vînt de dépasser la trentaine, il n'avait jamais pensé à se marier, et même, il n'avait jamais eu de maîtresse, les filles lui suffisant. Quand, après une semaine remplie par le travail, il avait le dimanche quelques heures de liberté, il trouvait naïf autant que fastidieux de les donner à une femme qui aurait voulu le noyer de sentiments, comme il disait, c'est-à-dire se promener en bateau sur la Seine, ou bien s'en aller à la Bouille ou à Moulineau, courir la forêt, ramasser des fleurs, cueillir des fraises. Aussi peu champêtre que sentimental, il aimait mieux passer son temps avec quelques amis qui avaient les mêmes goûts que lui, à jouer d'interminables parties de billard, et à faire de plantureux dîners de grosses mangeailles et de copieuses beuveries, pour finir invariablement la soirée chez des demoiselles qui ne demandaient pas qu'avec elles on se mît en frais d'esprit ou de tendresse. Ainsi fait, et il n'était pas du tout décidé à changer, pouvait-il plaire à une femme ? La question était d'autant plus permise qu'avec la franchise d'un homme qui n'attache d'ailleurs aucun prix aux avantages corporels, il se reconnaissait gauche et dégingandé, taillé à coups de serpe, mal fini, et qu'il se rendait parfaitement compte qu'une jeune fille qui possédait une bonne dot pouvait très bien préférer à sa chevelure blonde et à sa barbe rousse rare les cheveux noirs et la fine moustache d'un beau garçon élégant et coquet qui n'était nullement. « Réfléchissez à ma double proposition, avait dit le père Rotin, dont le principe, appuyé sur une longue pratique, était de ne rien brusquer. Nous en reparlerons demain, la nuit porte conseil. Ma jeune orpheline a 120 000 francs de dot et 300 000 francs d'espérance sûre. Un oncle, ni père ni mère. Si la nuit porte conseil, elle apporte aussi la fièvre quelquefois, et cela s'était produit pour Courteuse. Bien qu'il n'eût jamais pensé à se marier, on lui avait cependant proposé plus d'une fois des jeunes filles, mais elle n'avait presque rien, et il n'allait pas embarrasser sa vie d'une femme qui lui serait une charge. Qu'en ferait-il ? La vie d'intérieur n'avait rien pour lui plaire. La chambre meublée, très sommairement meublée, où il n'avait jamais fait de feu et qu'il habitait depuis son arrivée à Rouen, lui suffisait très bien. De même que lui suffisaient les modestes menus de la pension dans laquelle il prenait ses repas. Avec ses goûts et ses habitudes, à quoi lui servirait une femme qui lui serait une occasion de dépense et qui, très probablement, serait empêtrée d'une famille ? Par profession, il connaissait mieux que personne le fardeau de la famille et il n'allait pas être assez bête pour se le laisser mettre sur le dos. Mais avec celle dont parlait le père Rotin, il en était autrement. 120 000 francs de dot, 300 000 francs d'héritage, ni père ni mère, et en plus, une étude qui, pour ne pas valoir grand-chose en ce moment, pouvait devenir excellente entre des mains qui sauraient lui faire produire ce qu'on en pouvait tirer. À la bonne heure, comme cela, il comprenait le mariage. Et pour la première fois de sa vie, dans son étroit lit de fer, sa nuit se passa à rêver au lieu de dormir sur les deux oreilles, comme c'était son habitude. Si bien que, de temps en temps, il s'interrompait dans sa rêverie pour se demander s'il n'avait pas un transport au cerveau, ou bien si ce n'était pas l'effet d'une faculté nouvelle qui naîtrait en lui, qu'il ne connaissait pas personnellement, mais dont il avait entendu parler sous le nom d'imagination. C'est que ce mariage, si beau qu'il fût dans le présent, n'était qu'un point de départ. Où ne pouvait-il pas le conduire ? Sans imagination jusqu'à ce jour, au moins avait-il eu quelquefois des fusées d'ambition et toujours de l'envie. Pourquoi celui-ci, qui ne le valait pas, était-il ? Et lui, pourquoi ne serait-il jamais ? Mais voilà que maintenant il pouvait être et que pour cela il n'avait qu'un mot à dire, qu'une femme à accepter. Moins que rien, en somme. Si, jusqu'à présent, il s'était résigné à n'occuper jamais qu'une position modeste, celle de maître clerc jusqu'aux environs de 40 ans, plus tard, celle de directeur d'un cabinet d'affaires où il n'aurait que quelques bons clients dont il gérerait les biens, ce n'était point par dédain de la fortune, mais uniquement par prudence, parce qu'il était trop avisé pour courir des chances qui pourraient l'entraîner plus loin qu'il ne voulait aller. Au contraire, il avait la religion de la fortune et il aimait l'argent, en vrai paysan qu'il était, passionnément. Gagner de l'argent, un peu d'argent, était le mot qu'il se disait dès l'âge de 13 ans en quittant son village, celui qu'il avait guidé dans la vie. Et voilà que ce mot, modéré dans ses visées, il pouvait le remplacer par un autre qui avait des ailes, faire fortune. Faire fortune sans risque de ruine ou de misérables expédients qui aboutissent à la police correctionnelle, pour lui, deux épouvantails qui toujours l'eussent retenu. Le lendemain, quoique son parti fût arrêté, il n'en laissa rien paraître. Toute la matinée, il travailla comme si le père Rotin ne lui avait adressé aucune proposition la veille, et ce fut seulement après le déjeuner, en se promenant ensemble dans une allée écartée du jardin, qu'ils reprirent la conversation au point où elle avait été interrompue. Encore fut-ce le vieux notaire qui dut commencer. « Avez-vous réfléchi ? Vous êtes donc toujours dans les mêmes dispositions ? Pourquoi n'y serais-je pas ? Maintenant que vous savez que je n'ai rien à attendre des miens, croyez-vous que la famille de la jeune personne m'acceptera avec ce que j'ai, ou plutôt avec ce que je n'ai pas ?» Le père Rotin lui tendit la main en souriant. « Vous me faites plaisir, dit-il. Je vois que vous avez compris la situation. La famille ne peut pas se montrer bien exigeante. Ni père ni mère, comme je vous l'ai dit, la mère morte, le père inconnu. Ah ! Cela vous gêne ? En rien. Et même, à vrai dire, je trouve qu'il n'y a pas de qualité plus rassurante chez une fille à marier que celle de bâtarde. Quand elle n'est pas sans le sou, s'entend. C'est notre cas. Le voici dans toute sa simplicité. Il y a 27 ou 28 ans, une jolie fille partit du Tuit pour aller à Paris, où elle entra comme demoiselle chez une des grandes modistes de la rue de la Paix. Elle était intelligente et travailleuse. Au bout de quelques années, elle s'établit à son compte et ouvrit un magasin boulevard Haussmann qui prospéra. À peu près à la même époque, c'est-à-dire il y a juste 20 ans et 3 mois, elle eut une fille. Dans quelles conditions et quel fut le père de cet enfant, c'est ce que j'ignore. Le certain, c'est qu'elle l'éleva tendrement en travaillant ferme, si bien que lorsqu'elle mourut, il y a 10 ans, elle laissait 70 000 francs d'argent gagné et un fonds de commerce qui fut vendu 30 000 francs. La petite orpheline fut alors recueillie par son oncle maternel, un de mes clients, marchand de cidre et adjoint au maire au Tuit. Je puis bien vous dire son nom, il s'appelle Benoît Gibourdel. Mais si c'est un paysan intelligent qui a su amasser une fortune de 300 000 francs, c'est aussi le plus grand paillard que je connaisse. Vieux garçon, il ne prend que de jolies servantes et toutes partent enceintes de chez lui. Le curé du Tuit, qui est un saint prêtre, jugea avec raison que ce n'était point là un intérieur décent pour cette jeune fille et il décida Benoît Gibourdel à la placer dans un des meilleurs couvents de Rouen où elle a fait son éducation et où elle est encore. Cela dit, si ma double proposition vous agrée, je vous invite à venir dimanche à Boissel. Vous arriverez de bonne heure pour vous rendre compte de ce qu'est mon étude. Et à 11 heures, vous déjeunerez avec Benoît Gibourdel. Vous ferez sa connaissance et il fera la vôtre. Puisque vous avez tout prévu, je n'ai qu'à vous remercier et à vous dire à dimanche. À dimanche.